Ok, merci. Donc, moi, je suis Hadiza Moussa, je suis chercheur au LASTEL, donc LASTEL Niamey. Alors, les analyses que je voudrais partager avec vous sont issues des résultats de travaux de ma thèse que j'ai soutenue en 2008. Alors, cette thèse portait sur la gestion de la fécondité féminine donc, dans un espace urbain, c'est-à-dire à Niamey. Alors, j'ai privilégié une entrée par la sexualité, la gestion de la fécondité, j'ai privilégié une entrée par la sexualité inféconde, pour étudier les normes et valeurs, donc les usages, les différents modes qui sont utilisés pour gérer la fécondité de la femme, à Niamey. Alors, ici, ma présentation est intitulée « Une ethnographie du corps infécond à Niamey ». Alors, pour planter le décor, je vais vous donner quelques chiffres qui présentent le contexte socio-démographique du Niger. D'abord, avant d'en arriver à ces chiffres, bien entendu, ma présentation va porter sur 4 principaux points. Je vais un peu parler des normes et valeurs, des pratiques sexuelles et reproductives, un peu évoquer le symbolisme, la sémiologie et les interprétations émiques qui entourent l'état d'infécondité. Dans un troisième temps, je vais évoquer les modes et usages concernant la prévention, la thérapeutique et surtout la gestion sociale, pas médicale. Je ferai l'économie de ça. Et dans un dernier point, je parlerai du corps stérile comme étant un réservoir d'une souffrance morale et multidimensionnelle. Alors, pour en arriver aux chiffres, au Niger, le taux de fécondité par femme est très très élevé. C'est l'un des plus élevés au monde, en tout cas si on s'en tient aux statistiques qui sont présentées par des organismes internationaux. 7,5 enfants par femme. Le taux d'accroissement démographique aussi, il est l'un des plus élevés au monde. Il est de 3,3%. Près du tiers de la population nigérienne est jeune, l'âge est compris entre 10 et 24 ans. 33% des filles sont mères avant l'âge de 20 ans. Qu'est-ce qu'il en est du taux d'utilisation des moyens contraceptifs? C'est une utilisation qui est très faible. Elle tourne autour de 11,2% selon le recensement général de la population. Et là, on a une répartition plus ou moins égale entre les méthodes modernes et les méthodes traditionnelles. 5% pour les méthodes modernes et 6,2% pour les méthodes traditionnelles. Là, c'est un indicateur, en tout cas, d'une société qui est très pronataliste, si je peux le dire. Alors, le taux global de mortalité maternelle est de 648 décès sur 100 000 naissances vivantes, qui est quasi constant depuis 1979. Alors, à côté de ça, il y a un taux moyen de 3% selon les résultats de l'enquête démographique et de santé qui a été réalisée en 2006. Là, j'ai pris soin de mettre en relief le premier point, le taux de fécondité qui est de 7,5 enfants et le taux de stérilité qui est de 3%. Pour montrer qu'à côté quand même de cette surfécondité, il y a également une stérilité qui est très, très, très importante et dont la prise en charge est consacrée à la fois par des modes et des usages sociaux. Et pour cela, on mobilise des modalités pratiques, des discours normatifs et des registres symboliques. Alors, pour parler des normes et valeurs et des pratiques sexuelles et reproductives, il y a un préalable, c'est presque un truisme de le dire, il y a un préalable à la reproduction, c'est d'abord la sexualité. La sexualité, en tout cas, conjugale, elle est très centrale, très importante. Il y a cette notion de dette conjugale, du devoir conjugal, qui est très féminisée. donc aux femmes d'accepter donc de satisfaire les hommes d'abord. Et pour cela, je ne veux pas revenir sur ce que certains des collègues ont dit. Il y a diverses stratégies de séduction sexuelle qui sont entreprises. Donc pour attendrir donc les femmes, surtout quand on est dans un ménage polygame où on le fait au détriment donc de la coépouse ou des coépouses. Donc il y a des produits qui sont utilisés appelés les Kayamata. Kayamata, donc c'est un générique Hausa. Kayamata, les choses des femmes. Donc c'est tout un tas de produits aphrodisiaques qui sont utilisés donc pour séduire davantage les maris. Alors il y a des discours normatifs donc tout autour de cette centralité de la sexualité conjugale. Il y a des discours normatifs très dissuasifs qui sont produits à l'encontre des femmes qui veulent se soustraire donc à ce devoir conjugal. Donc généralement on dit, on mobilise également des préceptes donc religieux donc islamique pour dire qu'il y a une malédiction qu'on encourt quand on se refuse à son mari. Un culte de l'enfantement qui est très fort, donc à la fois à travers les prescriptions sociales et religieuses. Donc il y a une sorte de continuum entre donc les traditions et la religion musulmane. Alors l'islam, donc il est vrai que l'islam a précédé le patriarcat, donc nos sociétés étaient déjà patriarcales. Mais l'islam, quelque part, s'est accommodé donc de ce patriarcat et qui définit les attributions donc reproductives des femmes mariées. Par exemple, je cite un hadith rapporté par Boudiba qui dit « Le paradis des femmes est sous les talons, le paradis est sous les talons des mères. » Alors, donc, qu'est-ce qu'elle prêche cette norme reproductive qui est donc... qu'on voit à travers les normes, les valeurs, c'est qu'elle prêche un destin maternel à chaque femme. Et du coup, il y a une représentation mannequine, comme l'ont dit ceux qui m'ont précédé, entre donc la fécondité et la stérilité. Donc, les personnes stériles donc, font généralement donc l'objet donc de stigmatisation et un peu d'ostracisme. Alors, le symbolisme, donc la sémiologie et les intérêts, donc c'est mon deuxième point, je ne veux pas beaucoup m'attarder là-dessus. Alors, d'abord le symbolisme de la société, il y a une corrélation entre la fertilité de la terre et la fécondité de la femme. Donc généralement, plus une femme est féconde, plus les récoltes donc de sa famille sont importantes. Inversement, là pour évoquer un article d'héritier, donc là, généralement, chaleur, sécheresse, aridité correspondent quelque part à la stérilité. Dans le premier point, si une femme féconde, elle favorise donc l'abondance de récoltes. Inversement, une femme inféconde donc favorise la rareté de récoltes. C'est un peu ce qui est apparu dans les discours, donc dans les représentations que j'ai eu l'occasion de relever. L'infécondité, c'est aussi synonyme de mort sociale. La fécondité, c'est assurer donc sa postérité. Donc, du coup, quand on est stérile, cela voudrait dire que quelque part, on est mort socialement. Alors là, pour évoquer les travaux de Gélis, qu'il a fait dans un autre contexte, dans un contexte occidental, mais qui est aujourd'hui peut-être dépassé, la naissance... C'est une façon d'illustrer aussi les représentations donc sociales. La naissance favorise la régénération du cycle vital. Alors, je disais, donc à l'inverse, l'idée de mort est associée à une personne stérile. On parle, donc l'image de la femme stérile, elle renvoie à un bras mort du corps social. Ça, c'est Mireille Lager dans ses travaux qui le dit. L'état de stérilité condamne à une mort sans retour. Synonyme de néant existentiel, etc., etc. En fait, toutes ces représentations-là, elles sont ressorties dans les différents discours que j'ai pu recueillir. Alors ici, il y a l'idée de vide qui est assez prégnante. Le corps, au lieu d'être un réceptacle qui doit jouer le rôle donc, de concepteur qui lui est dévolu, quelque part se soustrait à ce rôle-là. Donc, on parle de la vacuité du corps infécond. Alors, absence d'enfant, conclusion, ça vaut absence de présence sociale dans les représentations. Donc, dans les interprétations émiques donc de la stérilité, souvent on pense qu'une personne est stérile, généralement pour la femme, tout simplement parce qu'elle serait elle-même sorcière. Donc, il y a une sorte de. On peut parler de la mère dévorante au sens de Denis Porn qui parle donc de la femme qui dévore ses propres enfants. Donc, quelque part, on est stérile parce que soi-même, on est sorcière. Donc, la sorcellerie auto-stérilisante. Il y a également l'équivalence entre la stérilité féminine et la masculinité. Et la fécondité, on l'a dit, on l'a répété depuis ce matin ici, c'est un marqueur de l'identité féminine. Au-delà donc de certains signes, de certaines transformations. Donc, par exemple, on prend les seins, les menstrues, mais c'est surtout la procréation qui fait le plus donc l'identité de la femme. Donc, les femmes sans enfants sont souvent considérées donc dans certaines représentations comme des hommes. Toujours concernant donc ce point, j'en viens à la sémiologie. On parle de Waigunu, par exemple, pour parler d'une femme stérile, donc en Zarma, Alborkambu. Alors, ce qu'il y a lieu de retenir, c'est que dans les représentations, la seule forme de stérilité qui est reconnue aux hommes, c'est seulement l'impuissance. Donc, là, j'ai passé là-dessus. Par exemple, quand il s'agit de parler de la responsabilité, dans un couple, la responsabilité, donc quand un couple n'arrive pas à avoir un enfant, la première personne qui est visée, c'est d'abord la femme. C'est la responsabilité de la femme qu'on met en avant d'abord. Donc, Alborkambu, un homme mort, donc c'est dit d'un homme impuissant. Kararia, là, c'est une onomatopée, donc Hausa, qui donne aussi l'idée de vacuité que j'évoquais tout à l'heure. Alors, c'est que cette sémiologie, ce qu'il faut préciser, c'est que souvent, elle est prononcée, elle est utilisée pour tourner en dérision, donc, généralement, les femmes qui n'ont pas d'enfants. Là, par exemple, j'ai une expression, Weborg, bon, une femme qui ne fait que manger pour empiler de la graisse. Donc, ça fait partie des supports donc sémantiques qui sont utilisés. Tiki Kaidaj, donc, un ventre qui sert à la défécation plutôt qu'à la production d'enfants. Alors, il y a une multitude de systèmes donc interprétatifs donc qui sont mobilisés. Je parlais tout à l'heure de l'impuissance donc masculine, qui est la seule forme de stérilité masculine qui est connue jusqu'ici. Il y a l'aménorrhée absolue, ces femmes qui n'ont pas de règles du tout. Donc, souvent dans les discours émiques, on les appelle anebwe, les femmes du prophète. Donc, pour qualifier ces femmes qui n'ont pas de cycle menstruel. Alors, il y a également cette question d'incompatibilité des sangs. On pense souvent que la séparation du couple peut donner lieu à la naissance d'enfants dans des ménages différents, donc dans de nouvelles vies donc reconstruites. Il y a également la transgression des interdits sexuels. Il y a la sexualité préconjugale qui est fortement donc condamnée, la sexualité intraconjugale, donc les pratiques adultérines, et également la sexualité incestueuse. Il y a également les pratiques stérilisantes occultes qui sont évoquées pour expliquer l'état de stérilité chez une femme ou chez un homme. Par exemple, on peut parler d'anthropophagie, qui est différente, bien entendu, de la sorcellerie, donc auto-stérilisante dont je parlais tout à l'heure. Il y a également le mauvais œil, la magie noire, l'alliance avec les génies. C'est une représentation qui est souvent courante. On pense qu'une fille ou un homme qu'un homme ou une femme, pardon, ne peut pas donner d'enfant parce que tout simplement, cette personne se serait alliée à des génies, donc des génies qui ont l'exclusivité sociale, sexuelle pardon, avec elle. Alors, il y a également le mythe de l'enfant endormi. On pense souvent qu'il y a des grossesses qui dorment pendant un certain temps donc, et qui se réveillent après. Donc, c'est bien entendu, c'est de l'ordre du mythe. Alors, le troisième point, je veux parler de la prévention, de la thérapeutique et de la gestion. J'ai bien précisé sociale parce que je ne veux pas parler de toute la prise en charge qui est faite en milieu médical. Alors, il y a bien entendu d'abord les rituels de protection, il y a le respect de certains interdits et cette prévention-là, elle est orientée davantage vers les garçons que vers les filles ou bien orientée vers les hommes que vers les femmes. Alors, on interdit par exemple à un garçon de ne pas enjamber un pilon ou un mortier, de ne pas s'y asseoir, ne pas frapper un garçon avec une spatule de cuisine, éviter que le lait maternel coule sur le sexe du bébé garçon. D'autres interdits alimentaires également, pour se prémunir pour la femme bien entendu ici, des avortements spontanés, éviter les relations sexuelles en brousse, ne pas dormir au clair de lune pour la femme. Ce n'est pas exhaustif, c'est juste indicatif. Alors, pour la thérapeutique, c'est surtout l'efficacité symbolique qui porte plus. Donc, il faudrait croire. En famille, par exemple, on s'appuie sur des recettes de grand-mère qui sont généralement ésotériques. Donc, je ne pourrais pas vous faire une liste de ces recettes-là. Tout ce que je sais, c'est qu'elles existent, c'est ce qui est ressorti à travers mes enquêtes. Elles ne sont pas du tout divulguées, ou bien, si ça l'est, c'est dans un groupe d'initiés, si je peux l'appeler. Alors, dans les circuits populaires, donc chez les tradis praticiens, il y a l'herboristerie, le rituel de dépossession, le port d'allumettes, la consommation d'eau bénite, etc., les prières. Alors, j'en viens au troisième point qui est la gestion sociale de la stérilité. Alors, j'ai dégagé quatre formes de prise en charge de la stérilité. Elles ne sont pas limitatives, mais ce sont celles qui sont ressorties de façon assez récurrente. Donc, il y a d'abord la polygamie, le confiage d'enfants, le divorce et l'adultère. Alors, la polygamie, c'est une occasion de déresponsabiliser soit l'homme, soit la femme, soit tous les deux à la fois. Parce que l'arrivée d'une coépouse donc, dans la maison, on pense que ça peut réactiver les cellules maternantes qui sont ensommeillées. On parle par exemple de jalousie. On pense que le ventre concepteur, il est jaloux. Et si l'épouse A n'a pas eu d'enfant pendant un certain temps, l'arrivée de l'épouse B peut favoriser la réactivation de ces cellules maternantes qui sont restées ensommeillées. Donc, en zarma, l'expression utilisée souvent, on dit « gundag chansi » ou littéralement le ventre peut jalouser. Alors, il y a le confiage qui est une pratique très très répandue qui permet le rétablissement de l'ordre social initialement perturbé par le manque d'enfants. Donc ici, il y a une circulation d'enfants qui est donc dans le réseau, donc au sein de la parentèle et dans le réseau d'interconnaissance. Alors, ce confiage-là, c'est une forme de réparation puisqu'il rétablit donc l'équilibre rompu. C'est une solution d'attente à l'absence d'enfant. Donc, on prend chez soi un enfant en espérant soi-même, parce que tout à l'heure, je vous parlais des cellules donc, maternantes qui peuvent donc s'endormir. Peut-être que la présence d'enfants aussi peut aider à réveiller ces cellules maternantes-là. Alors, pourquoi je parle de réparation? On est seulement parent d'un ricotin. Un ricot, ça veut dire l'enfant du père, l'enfant qu'on garde chez soi, pas l'enfant de soi. On a l'enfant de l'autre, donc c'est l'enfant du père. On est seulement parent de l'autre, donc on est parent d'un ricot et non parent de l'enfant de soi. Donc là, c'est un peu, pour parler un peu comme Goffman qui parle du stigmate, ici, on a réparé le stigmate et on sait que vous avez réparé ce stigmate-là. Donc, vous êtes vu comme quelqu'un qui a réparé un stigmate quand on vous a confié un enfant que vous avez gardé. Mais, en arrière-plan, donc, ce stigmate-là, il demeure. Ok, alors, pour utiliser donc une autre formule ici, quand on a un Danruko ou bien un Takabiri, c'est qu'on est partiellement parent ou bien on est quasi parent. C'est de la parenté fictive, c'est de la parenté artificielle. Donc ça, c'est des formules que j'emprunte à Massar qui a travaillé dans une île malaise. Alors, pourquoi on est seulement quasi parent ou bien on est partiellement parent? Parce que contrairement à l'adoption où il n'y a pas une cohabitation donc des droits parentaux donc sur la progéniture, dans le cadre du confiage, donc ces droits parentaux là, ils coexistent. Donc quand vous avez un enfant donc un enfant du frère, de la sœur, de la cousine ou de l'ami, il sait qu'il a ses parents qui sont là à côté. Donc cette coexistence de ces droits parentaux là fait en sorte que vous ne vous sentez pas complètement parent. Par exemple, quand je prends le contexte donc occidental, vous adoptez quelqu'un et vous adoptez un enfant, vous êtes parent. On peut s'accommoder donc d'une adoption. Donc on a d'un enfant adopté, on dit je suis parent. Vous pouvez être parent d'un enfant adopté, mais il reste que vous êtes parent. Alors que dans le contexte africain, ce n'est pas le cas. Vous êtes donc parent de l'enfant d'autrui. Alors, là, c'est un peu hors de propos, mais le confiage, souvent, ça peut également être le soubassement d'une rationalité économique. Donc, souvent, on se déleste d'enfants, donc on a trop d'enfants, on les amène donc ailleurs. Là, ce n'est pas dans le cadre de la prise en charge de la stérilité. Alors, il y a le multipartenariat, donc le fait d'avoir plusieurs partenaire sexuel. Donc, il y a une instabilité donc conjugale dans les ménages donc inféconds. Il y a un nomadisme conjugal à la fois pour les hommes et pour les femmes. Donc, le plus souvent, quand le couple n'arrive pas à avoir d'enfants, quand la polygamie n'a pas pu réparer donc cette situation, souvent c'est le divorce qui s'ensuit. Il y a cette altérité de la femme sans enfant qui fait que, bon, souvent, même avec l'arrivée d'une coépouse, elle part, elle ne reste pas. Alors, l'adultère, l'infidélité aide aussi à tester les aptitudes procréatrices. Mais on ne parlera pas d'adultère pour les hommes parce que socialement, ce n'est pas reconnu en tant que tel. On va parler surtout de l'infidélité des femmes. Donc, une femme peut aller voir ailleurs entre griffes en étant dans son foyer pour voir si réellement, parce qu'on ne reconnaît pas de stérilité masculine, donc elle peut aller voir ailleurs pour tester ses aptitudes. Donc, soit elles sont confirmées ou elles ne sont pas confirmées. Mais l'adultère peut également être une activité, une action qui est socialement organisée, donc qui est commis avec la complicité de la parentèle. Alors là, on peut parler de avant d'en arriver donc aux lésures circonstancielles, c'est que souvent on sait bien que la femme va voir ailleurs, mais comme c'est une occasion aussi, en même temps qu'elle teste ses aptitudes procréatrices, c'est une autre manière aussi de tester celle de son mari. Alors donc, on voit, mais on fait semblant de ne pas voir, donc on ferme les yeux. Mais il y a le cas de l'estimation de l'évira circonstancielle, ça j'emprunte le terme, l'expression à Journée qui a travaillé dans la société Djoula en Casamance. Donc là, c'est quand l'infidélité a lieu au sein de la famille. Donc quand il y a un mariage arrangé de famille entre cousins, qu'ils soient parallèles ou croisés, donc assez facilement on accepte. Donc souvent, c'est un autre membre de la famille qui devient géniteur à la place du mari. Donc c'est ça qu'on appelle le lévira circonstanciel. Alors, le corps stérile, c'est aussi le réservoir d'une souffrance morale multidimensionnelle. C'est à la fois une souffrance corporelle, une souffrance émotionnelle, c'est un miroir, d'une identité stigmatisée et blessée. Donc, la femme stérile, elle est en fait en quête continuelle de modèles sociaux valorisants. Donc, on a des problèmes entre les perceptions de soi et les perceptions d'autrui. Il y a souvent un entremêlement qui déstabilise donc la vie psychologique donc de la personne. Donc, on a une dette de vie qu'on s'acharne à solder avec plus ou moins de succès. Alors, c'est pourquoi, vu ces difficultés, la stérilité occasionne donc des interactions faussées ou des pathologies de l'interaction, comme le dit Goffman. Donc, la plupart du temps, donc, on craint la redoutable question « Combien d'enfants vous avez ?» C'est un peu ressorti dans certains donc, de mes entretiens. Alors, je disais que c'est le réservoir donc d'une souffrance donc corporelle donc et psychologique. Il y a l'amour. Donc il y a en fait des fragments de sentiments contradictoires. On a souvent honte de ne pas avoir d'enfant. On est coupable de n'avoir pas donc soldé cette dette de vie. On se sent seul. On se sent anxieux. Il y a l'espoir et le désespoir aussi qui se bousculent. Tantôt, on espère donc, il y a une forte espérance parce qu'on espère qu'à la fin de ce cycle donc menstruel, on espère avoir un enfant. Mais l'autre cycle menstruel, quand il s'annonce, c'est le désespoir, etc. Donc, ici, tout à l'heure, Yannick parlait donc du kaléidoscope. C'est le kaléidoscope sentimental au sens de surunique. Donc là, on a vraiment tout un tas donc de sentiments donc contradictoires qui animent la personne stérile. Alors, je ne vais pas conclure, mais je vais juste tirer quelques leçons en termes d'hypothèses. Par rapport à la prise en charge donc de la stérilité, donc surtout sur le parcours thérapeutique, je n'ai pas parlé tout à l'heure de la prise en charge donc médicale, mais il y a une utilisation accrue et abusive des inducteurs de fertilité qui accroissent le risque de cancer du sein et donc de mortalité. Moi, j'ai fini mes recherches en 2008. Je parle sous le contrôle des médecins nigériens qui sont ici dans cette salle. À ma connaissance, jusqu'ici, en dehors de la plastie tubaire et l'inscription de la prescription des inducteurs de fertilité, il n'y a pas d'autre forme de prise en charge de la stérilité dans les centres de soins à Niamey. Peut-être qu'il y a eu une évolution depuis. La multiplication des grossesses gemellaires, justement, du fait de ces inducteurs de fertilité, pour des primipares qui sont souvent âgés, expose les femmes au décès. La prématurité de grossesses multiples est également un facteur de risque de mortalité. Je vous remercie.